Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Paroles d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Intelligence collective, bifurcation écologique et culture de résistance. En cette journée du 1er mai, l'émission « Il est une vallée » vous propose d'entendre celles et ceux qu'on appelle communément facilitateurs et facilitatrices. Celles et ceux qui proposent d'autres manières de débattre et de réfléchir collectivement pour agir en faveur d'une transformation sociale, écologique, économique et politique.
Je m'appelle Laura Bezeau, je suis facilitatrice en intelligence collective et également animatrice de la fresque du climat.
Qu'est-ce que c'est être animatrice en intelligence collective ?
C'est concevoir des processus de travail en coopération pour inciter les gens en fait, à faire émerger des idées individuelles et à les déposer au sein du collectif pour faire en sorte que l'ensemble de l'équipe se les approprie et décide ensemble et réfléchisse ensemble avec ces idées individuelles. Par exemple, les chapeaux de Bono, où en fait, on va aborder un projet selon un prisme optimiste, un prisme plutôt pessimiste, etc. Il y a pas mal d'outils aussi de sociocratie, avec des élections sans candidat, qui permettent de définir qui prend la responsabilité et que ce soit pas une personne qui se nomme directement responsable de l'action à faire. Donc voilà.
Autre forme d'intelligence collective que tu as évoquée, c'est la fresque du climat, on commence à en entendre parler.
Et ben en fait, c'est un atelier qui dure 3 heures et qui permet de comprendre les enjeux, les causes et les conséquences liées au dérèglement climatique. Ça peut être à l'intérieur d'une structure, mais aussi en mode grand public. C'est juste un jeu de cartes et tous ceux qui veulent participer prennent 3 heures de leur temps pour comprendre tout ça.
Au sein de quel collectif est-ce que tu interviens généralement ? Est-ce que c'est plutôt des associations ? Est-ce qu'il y a aussi des entreprises, des collectifs juste citoyens ?
Plutôt des entreprises, mais aussi des projets associatifs. Et après, dans la partie publique, il y a aussi tout ce qui est concertation citoyenne, démocratie participative, dans lesquelles on utilise pas mal d'outils d'intelligence collective.
Une idée de combien vous êtes aujourd'hui, en termes de personnes qui travaillent sur cette fresque du climat et puis en animation d'intelligence collective ?
Alors sur la fresque du climat, je sais qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont suivi un atelier de la fresque, donc ça fait beaucoup, en France et dans le monde. En intelligence collective, je pense que dans le département, c'est hyper enclin à ça, donc il y a plusieurs dizaines de facilitateurs et de facilitatrices, je pense. Et en France, peut-être des milliers. Enfin, ce serait chouette qu'il y ait des milliers, mais il y a de plus en plus de formations qui s'ouvrent et qui s'épanouissent beaucoup dans la formation des gens en facilitation. Ouais.
Aurélie Sutter, j'accompagne les démarches de bifurcation écologique, donc que ce soit au niveau des individus ou des entreprises. Ça peut être de la sensibilisation, de la formation, du conseil, de l'animation, de la facilitation. Tout ça dans un seul but, c'est de donner envie de s'engager dans la transition écologique.
Sur les métiers d'intelligence collective, c'est l'Université du Nou qui a initié ça en France. Ils ont pas mal de recul sur le sujet depuis une dizaine d'années. Et en fait, c'est parce que c'est l'enjeu démocratique et à l'heure actuelle hyper important dans la société française. Et je pense que c'est pour ça que les gens s'en capacitent et se forment à l'intelligence collective, parce que c'est vraiment une des solutions pour répondre à des problématiques humaines au sein des entreprises, des problématiques de gouvernance, de pouvoir, d'ego. Et que voilà, on commence à se questionner sur ça et c'est vraiment chouette.
Ça passe beaucoup par des ateliers de sensibilisation. Donc typiquement, j'anime des ateliers pour comprendre les enjeux autour du changement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité, donc typiquement des fresques du climat ou autre. Et après, on est en train de monter avec 2 autres entrepreneurs un parcours d'accompagnement pour aller un peu plus loin que juste un atelier de sensibilisation, pour dire, une fois qu'on a compris les enjeux, comment on peut avancer dans sa vie sur tous les aspects, donc que ce soit au niveau de ses consommations, mais aussi de son projet de vie, de son projet personnel, professionnel, donc les accompagner et en faisant ça, créer des cadres propices aux échanges. Et on est en train de monter un parcours sur plusieurs semaines pour justement permettre aux gens de s'exprimer sur ces sujets, d'avoir un cadre de confiance et d'essayer d'avancer avec des propositions concrètes sur ce qu'ils peuvent changer dans leur vie, quoi. L'idée, c'est vraiment de passer par différentes phases. Hein. C'est, on passe par la coupe du deuil. Hein. On comprend les choses. On exprime aussi les émotions que ça soulève. Et on montre que c'est un chemin. Et surtout, on propose des réflexions sur différentes thématiques. Hein, le logement, le transport, la mobilité, etc. Et puis après, on propose justement aux gens de rejoindre un collectif, de continuer à échanger au-delà des cadres qu'on va proposer. Donc l'idée, c'est que ça se suive dans le temps et que les gens se sentent en confiance, en sécurité pour aborder ces sujets-là, quoi.
Comment toi tu en es arrivée là ?
J'ai fait une transition personnelle très forte puisque je travaille.
Transition ou bifurcation du coup ?
Bifurcation complète puisque je travaillais à Paris dans une filiale d'Air France et j'ai développé plein de choses en interne jusqu'à me dire bon, je suis arrivée à une certaine limite et clairement il va falloir que je mette en pratique tout ce que j'ai appris au service de la bifurcation. Et donc c'est comme ça que je me suis engagée sur un autre chemin, que je me suis reformée. Et j'ai lancé un podcast pour aller à la rencontre d'initiatives inspirantes.
Bonjour et bienvenue. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du Podcaston. Plus de 350 podcasteuses et podcasteurs se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Alors pour cette belle mobilisation, je teste un nouveau format. Un hors-série en 3 épisodes sur le sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, ce que l'on mange et la manière dont on le produit. Et grâce au podcast Relations, je me suis rendu compte que les premiers pas des gens étaient presque toujours centrés autour d'une même thématique, manger différemment.
Moi, je préfère le terme bifurcation parce que pour moi, la transition, ça peut être vu comme très très long et on ne sait pas vers quoi on transitionne. En fait, pour moi, il faut vraiment changer radicalement les choses. On est souvent en entreprise à se dire comment je peux faire moins mal, donc comment je vais limiter mes émissions de CO2, etc. En fait, faire moins mal, c'est toujours faire mal. Donc pour moi, il y a un premier step, c'est effectivement de voir comment on peut limiter son impact. Mais ensuite, c'est vraiment de repenser complètement son activité et de voir comment les choses auxquelles il va falloir renoncer, les choses qu'on va pouvoir lancer, les choses qu'on va créer, mais vraiment dans un nouveau contexte et redéfinir complètement son modèle d'affaires. Et c'est pareil pour les gens, en fait. On commence par changer des petites choses et puis au bout d'un moment on se rend compte que les changements ils vont être de plus grande ampleur et qu'en fait ça peut être joyeux aussi. Donc c'est vraiment ça sur lequel j'insiste, c'est que ça peut être très chouette de repenser sa vie en respectant le vivant.
Et oui, parce que ce que nous mangeons a un impact considérable sur le vivant. 80% de la déforestation est due à l'agriculture et quasiment tout le bois déforesté est brûlé. Plus d'un tiers de la surface terrestre est destinée à l'agriculture et à l'élevage. En tout, ça représente 25% des gaz à effet de serre émis si on inclut la déforestation induite.
Est-ce qu'il y a des modèles d'activité qui ne sont pas purement et simplement par nature incompatibles avec le changement climatique ?
Clairement, du coup, il va falloir renoncer à des choses. Mais quand on est une entreprise qui a des activités qui sont, comme tu dis, peut-être incompatibles, c'est justement, il faut d'autant plus se poser des questions dès maintenant pour pas qu'il y ait un choc brutal à un moment donné. Donc il faut se dire, et il y a des entreprises qui le font, de se dire, sur ce type de produit, c'est absolument incompatible. Donc ça, clairement, il va falloir l'arrêter, même si ça nous rapporte 50% de notre chiffre d'affaires. Et il y a des entreprises qui font ça et qui décident d'arrêter un produit qui est très générateur de chiffre d'affaires en se disant on l'arrête dans 5 ans et pour que ça soit possible sans qu'il y ait de casse, comment on va pouvoir justement structurer et solidifier et être robuste pour pouvoir arrêter certaines choses incompatibles et en lancer d'autres. Et en fait, tout type d'entreprise avec les ressources humaines, matérielles, les compétences, les capacités d'innovation peut repenser son activité. Alors je dis pas, c'est plus ou moins simple, ça peut être même très dur, mais c'est possible de le faire, mais encore faut-il l'anticiper parce que ça se fait pas du jour au lendemain.
Donc ça, c'est sur la nature, mais est-ce que tu crois que l'idée d'écologie est compatible avec l'idée même de croissance, de bénéfices et du coup de développement ?
En fait, il faut effectivement sortir de la croissance dans le sens juste PIB. Donc ça, c'est clair. Il y a des récits dominants dans lesquels qu'il faut détricoter. Et ça, on en parle dans tous les accompagnements. C'est déjà faire prendre conscience qu'il y a ces récits dominants au niveau de la société et ensuite ça se décline au niveau de l'entreprise où typiquement on va parler de performance plutôt que de robustesse, on va parler de croissance à tout prix, mais en fait croissance pourquoi ? Donc il faut repenser ces logiques-là et se dire on est dans l'épanouissement des uns des autres et il faut redéfinir les nouveaux indicateurs. Donc clairement, oui, moi je suis pour sortir de ça et c'est compliqué. Parfois on arrive en entreprise, on parle de gros mots là, mais pourtant c'est vraiment des choses qu'on met sur la table parce qu'à un moment donné, on ne peut pas rester sur ces indicateurs-là. J'adore m'inspirer du vivant, surtout d'ailleurs en entreprise. et le vivant pour faire face à des périodes de fluctuations. C'est Olivier Hamant qui le dit, qui est hyper inspirant. Ben, ce qu'il explique, c'est que le vivant se base sur la robustesse et pas sur la performance. Et on ne peut pas être et performant et robuste. Et la performance, c'est un état exceptionnel. On peut être performant un temps, mais pas tout le temps. Et dans la durée, il faut être plutôt robuste. Et c'est ça qu'il faut viser, plutôt qu'une performance qui va desservir en fait, la solidité même de l'entreprise. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on met sur la table. Et du coup, c'est passionnant.
Mais là où ça devient intéressant et enthousiasmant, c'est qu'en changeant nos habitudes alimentaires et nos pratiques agricoles, on peut agir très concrètement sur le climat, la biodiversité, le sol, l'eau et donc participer à la préservation de nos conditions de vie. Il est possible de manger différemment et de produire autrement.
Petit cercle patate d'accueil, parce qu'on a des invités aujourd'hui. Il y a Laurie et sa petite troupe de fresqueurs qui nous ont rejoints et qui vont être là pour quelques temps, partir, revenir.
Je m'appelle Laurie et je développe un projet qui s'appelle la fresque des résistances, qui vise à relier différents types de luttes, différents modes d'action, par un atelier qui est collectif, participatif et qui permet aussi de créer des espaces d'échange sur ces sujets.
Et puis on a Théo qui est de la radio locale qui va
faire. Alors la fresque essaie de retracer en fait les différents mouvements qui existent aujourd'hui, que ce soit sur les sujets écologistes ou sociaux, féministes, antiracistes, antivalidistes, qui en fait ont beaucoup de racines, d'origines qui peuvent être communes. Et c'est des mouvements qui visent à se positionner en rupture par rapport à ces systèmes et à construire des systèmes plus justes, plus vivants et plus viables. Et aussi diversité de modes d'action, c'est-à-dire que le terme de résistance, il ne comprend pas seulement l'activisme et le fait d'être en opposition, mais aussi le fait de construire des alternatives et le fait de changer les mentalités, les nouveaux récits. Et en fait, c'est des modes d'action qui sont complètement complémentaires, qu'on a tendance à voir en opposition. Et l'atelier essaie justement de tisser cette complémentarité autour d'une culture de résistance commune.
Je ne sais pas trop. Peut-être pourquoi tu voulais faire la fresque, sinon tout simplement, ouais.
J'ai un peu navigué dans une diversité justement de luttes et de modes d'action, en ce qui me concerne notamment écologiste et féministe, mais j'ai aussi navigué dans différents modes d'action, que ce soit de l'éducation aux enjeux énergie-climat, ou de la recherche via un mémoire sur l'engagement écologique, ou encore la visite d'un voyage dans des lieux de vie en collectif. Et en naviguant un peu dans toute cette diversité, j'avais vraiment à cœur de tisser des liens et de voir les complémentarités qui existaient. Et tout ce processus m'a mené à me pencher vers ce projet, et d'abord par une partie de recherche sur ce projet, puis par l'incarnation de cette recherche dans des outils et des formations.
Et demain matin, on sera sur le marché, on va travailler cet après-midi sur une animation qu'on va essayer de faire. Et après, sur le programme de la semaine, je ne sais pas trop si on va vraiment se revoir en fait.
Demain, sur le marché, on va proposer une petite animation pour montrer à voir ce que peut être l'atelier, parce que l'atelier qu'on propose de la fresque des résistances, qui est un des outils du projet, dure 3 heures. Et c'est un atelier sur inscription avec un groupe, donc qui nécessite un peu de préparation en amont. Mais sur les formats marché ou festival, on propose un format quiz de cet atelier qui permet, on sélectionne une petite partie des cartes, parce qu'il y a 46 cartes dans le jeu. Là, on en sélectionne quelques-unes et on essaie d'inviter les participants, les personnes qui passent devant nous, à essayer de positionner les cartes selon les liens qu'ils envisagent. Et ensuite, ça permet aussi de nouer un échange sur ces sujets, de leur parler du projet et éventuellement de les inviter à faire l'atelier complet dans un autre cadre.
C'est la radio ?
C'est Radio Saint-Fé, Erdiwa. Radio Saint-Fé, Erdiwa.
Ah ouais, c'est bien. Qu'est-ce que... En plus, il n'y a pas la caméra, parce que c'est pas la, télévision, c'est la caméra,
la radio.
La radio. Quand c'est qu'on fait une télé, locale ?
Recueillir les messages. Magicienne magnifique qui m'offrait en partage des visions mirifiques.
Elle m'a fait penser à un micro.
Une affiche, une grande
d'accord, on pourra dire ça
peut aller en faire. Ok, recherche d'information, le journalisme, et ces 3 grands champs, lutter contre, construire, éduquer. C'est vraiment 3 facettes de même stratégie globale et qui sont très complémentaires, qu'on a tendance à mettre en opposition, à isoler un petit peu, mais qui sont ultra liées. Et si on enlève un de ces champs d'action, on perd une puissance d'impact qui est très grande. C'est ça que c'est un des objectifs de cet outil, c'est de créer des synergies, des liens entre ces différents types d'actions et aussi entre les différents modes de résistance. Et il y a pareil, il y a vraiment le fait de tisser la systémique, justement au sein de cette diversité de systèmes, de tisser des liens entre tous les différents systèmes qui existent, politiques, économiques, sociaux.
Elle s'appelle Résistance Civile.
D'accord. Ah, je crois que... Alors, je m'appelle Sylvie Fougère, j'habite au village de Valdroum, dans le Diois. Je me suis rendu compte que j'avais oublié mon porte-monnaie chez moi. J'ai fait du stop pour venir jusqu'ici.
Et en fond, tu as toutes les luttes.
Du XXe siècle et plus.
Toutes les luttes et plus, ouais. Oui.
D'accord, et ça émerge de Résistance Civile, c'est ça?
Ça, le gros titre, c'est ça. Désobéissance civile, pardon. D'accord. J'ai dit des bêtises, là, sûrement. Des contraires, je ne m'étonne pas.
Non, non.
La désobéissance,
désobéissance civile, voilà, faire, c'est ça.
Alors, ça, c'est ce qu'on fait rentrer dans la fresque, c'est ce qu'on fait rentrer dans. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une sorte de triangle.
Oui.
Le triangle des résistances, c'est la résistance active.
On m'a expliqué la fresque de la résistance, comment elle se déroule. Enfin, on voit un petit peu l'évolution des mouvements, quoi. Et j'essaye à mon niveau de faire un petit peu ma part quand je peux. Je me dis si ça peut réveiller des gens, permettre aux gens de faire un petit déclic, quoi, de se dire c'est maintenant qu'il faut essayer de se bouger un peu pour que les choses changent. Enfin, en tout cas, ils informent et je trouve ça super qu'ils soient venus là pour l'exposer, quoi.
Nous, on part du principe de base qu'en fait, il y a une problématique qui fait que on s'est déconnecté au vivant, on s'est déconnecté de notre place au sein du vivant. Les raisons peuvent être multiples et elles restent toutes théoriques. Ça peut être à un moment donné la naissance des religions, ça peut être la sédentarisation par l'agriculture, qui a fait que on n'a plus cette connexion au vivant. Et de là, on a découlé des systèmes de domination qui sont présents dans toutes les sociétés. Donc on y trouve le colonialisme. Et est-ce que tu aurais rapidement une petite idée des trois autres qu'il pourrait y avoir?
Moi, c'est Angèle et je suis membre de la fresque des résistances.
Ok, la déconnexion du vivant, mais que seulement pour une partie de l'humanité. Toute l'humanité ne s'est pas déconnectée du vivant.
En fait, la fresque des résistances, le point de départ, c'est de remarquer qu'il y a des systèmes de domination. Dans lesquels on évolue. On en a remarqué quatre principaux. Il y a le capitalisme, le patriarcat, le racisme et le colonialisme. Ces systèmes de domination sont dus au fait qu'on s'est au fil du temps déconnecté du vivant et qu'on évolue de plus en plus de façon individualiste. Et en même temps, à l'inverse, c'est ces systèmes de domination qui entraînent cela et inversement.
D'où le fait qu'on parle de système de domination avec le colonialisme, oui. Parce qu'en fait, c'est cette société qui s'est déconnectée au dit vivant, qui est en train de diffuser auprès des peuples qui, eux, sont restés connectés, fait que, possiblement, on a mis nous le patriarcat, le capitalisme et le racisme. Pour nous, c'est vraiment les quatre grands principes de système de domination.
Donc ces systèmes de domination, ils vont entraîner qu'il y a des oppressions systémiques de certaines... personne sur d'autres. On en a identifié cinq. Bien sûr, cette fresque, elle est menée à évoluer. Là, il y a les oppressions basées sur la classe sociale, les oppressions basées sur le genre et l'orientation sexuelle, les oppressions basées sur les origines raciales et religieuses, les oppressions basées sur des caractéristiques physiques. Ça, ce sont des oppressions intra-espèces. Et on a aussi l'exploitation et la destruction du vivant non humain, qui est donc une oppression, mais en dehors de l'espèce humaine. Il y a une petite carte là qui est un peu assez importante entre ces deux lots, qui est l'intersectionnalité. En fait, l'idée, c'est de dire qu'on peut être traversé par plusieurs formes d'oppression. Le fait d'être, par exemple, une femme et une personne noire, ça va faire qu'on vit une autre oppression qui est spécifique et qui n'est pas juste le cumul de deux autres oppressions, en fait. Ça nous invite aussi à nous dire que c'est important de ne pas hiérarchiser les luttes, mais de lutter ensemble et tous contre un système dominant.
Il y a peut-être aussi la culture qu'on pourrait rajouter. C'est ce qu'on met dans l'esprit des gens au quotidien. Comment on modèle l'individu? Parce que ces systèmes-là, ils sont dominants à partir du moment où ils sont acceptés. Et pour être accepté, il faut qu'on ait exprimé aux gens la nécessité que ça soit nécessaire pour eux de les accepter. Hein. Le racisme, le colonialisme, le patriarcat, le capitalisme, tout ça, c'est des systèmes qui sont arrivés parce que culturellement, progressivement, on a déconstruit D'une part, tout le vocable qui était approprié. Un exemple aujourd'hui, quand on dit, moi je suis ulcéré, quand on parlait de charge sociale, alors que ce sont des cotisations sociales. Donc il y a une dérive sémantique qui fait que bon, progressivement, les gens disent « Ah ben oui, c'est que des charges !» Et on est accablé de charges. Mais en réalité, quand les gens sont malades, ils vont à l'hôpital, ils disent pas « Mais je suis quoi? Je suis une charge ou je suis un citoyen qui bénéficie de la solidarité nationale ?» Enfin voilà, donc... Il y a aussi, moi, je pense, à rajouter...
Et donc, cette intersectionnalité, c'est peut-être ça qui va nous mener au lot de cartes suivant, qui est intitulé les mouvements de résistance. Là, on en a compté 7 plus 2, on va dire. Je peux les citer rapidement. L'anticlassisme, il y a les mouvements écologistes, il y a tout ce qui est féminisme et mouvement LGBTQIA+, l'antiracisme et l'anticolonialisme, et puis l'antispécisme. Donc ces cartes-là, ça nous mène assez naturellement vers la carte suivante qui va être la convergence, l'importance que les luttes convergent, encore une fois qu'on ne hiérarchise pas les luttes et surtout qu'on pense bien, même si chacun à titre individuel ou au nom de son collectif, on n'est pas obligé de lutter contre toutes les oppressions et qu'on peut se focaliser sur l'une parce que c'est là qu'on s'y connaît, qu'on peut évoluer, quand même l'importance de ne pas invisibiliser les autres luttes ou de ne pas avoir l'impression que notre lutte est plus importante que les autres.
Finalement, de nourrir ces systèmes de nomination, de les entretenir et de faire en sorte que les personnes pensent que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et on a mis donc en plus l'individualisme qui fait qu'en fait, ça fait une boucle sans arrêt où plus on nourrit ces systèmes de nomination, plus on va nourrir l'individualisme, plus on va les nourrir, etc. Et donc, cette déconnexion au vivant où on se sent supérieur à tout, supérieur aux vivants et aux non-vivants, aux humains et aux non-humains, etc. Et donc,
les stratégies, donc c'est la suite de la fresque. On a identifié déjà le fait que c'est important d'avoir une stratégie d'ensemble quand on lutte et dans les mouvements de résistance. Il y a un peu un triptyque de formats de résistance. Il y a la résistance activiste, donc ça va être le fait de lutter contre en faisant des blocages, en faisant des manifestations. Sur l'arcarte, on voit le blocage d'une mine de charbon en Allemagne. Il y a la résistance culturelle, le fait de s'informer, de transmettre de l'information, de savoir où aller chercher son information, de faire cet effort. Et la dernière carte, c'est la résistance créatrice, qui est l'idée de créer autre chose, de créer à côté du système. Ça va être quand on est dans des ZAD, quand on est dans des pédagogies alternatives, quand tout ce qu'on fait à côté du système pour créer autre chose et avoir d'autres modèles à proposer en parallèle de vouloir détruire un modèle qui est oppresseur.
Et si ça ne te dérange. Il y a forcément une part un peu de subjectivité et c'est vraiment en plus un... c'est un sujet qui est encore il y a peu de recherches et les recherches se lancent tout juste, donc c'est pas une vérité propre comme on peut avoir à la fresque du climat. Donc le principe c'est qu'on nous on part du principe de base qu'en fait il y a une problématique.
Là on est sur le format de la fresque en mode quiz, donc on n'a pas mis toutes les cartes. On a mis une des stratégies qui va être infiltrée ou exfiltrée selon les lieux d'où on agit, on va dire. Est-ce qu'on agit au sein du système? Est-ce qu'on est au sein des structures actuelles du système et on essaye de le changer de l'intérieur? Ou est-ce qu'on est exfiltré, c'est-à-dire qu'on est à côté du système et on lutte pour créer autre chose? Et enfin, on en arrive à la culture de résistance. Comment cultiver la résistance? Comment prendre soin et veiller à ce que la résistance, elle continue de vivre? Et les cartes qu'on retrouve là, ça va être déjà l'éthique, en fait, savoir avec quelles sont nos valeurs et quelles sont les valeurs qu'on veut développer et qu'on ne retrouve pas éventuellement dans le système actuel. Donc la justice, l'amour, le soin, l'égalité... Donc l'éthique, il y a le collectif, l'importance d'évoluer ensemble, d'évoluer en groupe, de prendre soin de nos liens sociaux. La radicalité, ça va être l'idée de se poser la question, mais contre quoi on lutte au fond, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut éliminer et quelles sont nos revendications. aller à la racine du problème. Donc sur la carte, il y a un joli arbre avec plein de racines pour la radicalité. Il y a le soin, c'est à la fois le soin de soi, ça peut passer par la respiration, par l'alimentation, le soin du nous, prendre soin de nos relations humaines, de nos relations sociales, appartenir à un collectif, et puis le soin de l'environnement, bien sûr, le soin, enfin l'écologie interespèce, l'attention, le respect, et se connecter au vivant, qu'il soit humain ou non humain. Et il me reste une carte qui est les émotions. C'est souvent ce qui nous anime au début, ce pourquoi les gens vont nous dire bah moi, la première fois que j'ai lutté, c'est quand je suis allée en manif pour ceci, contre cela. Et comment on fait pour qu'elle soit vectrice d'énergie et donc apprendre à les comprendre et à les gérer pour qu'elles nous servent en fait et non pas qu'elles nous desservent.
Complètement dans des mouvements de résistance. Et c'est d'ailleurs une carte qu'on pourrait rajouter dans l'aspect culture de résistance sur les arts, l'importance des différentes formes artistiques. Ouais. Bah, en fait, ça pour l'instant, on l'a compris dans résistance culturelle. Mais je pense que dans la partie culture de résistance, où on essaie d'identifier les éléments fondateurs d'une culture de résistance, pour l'instant, on a mis l'aspect collectif, le soin, les émotions, l'éthique. Mais c'est vrai que la partie artistique est toujours ultra centrale dans des cultures de résistance passées ou dans d'autres pays ou même aujourd'hui.
Même, je dirais, c'est même le cœur de plein de choses. C'était Molière, hein, pour le citer, La Fontaine, des gens comme ça qui ont parlé de sujets qu'ils auraient été décapités dans une autre époque s'ils en avaient parlé autrement que par le comique. Voilà, et qui ont trouvé un chemin pour atteindre tout le monde dans tous les milieux. Mozart, en reprenant les grands classiques de Beaumarchais. Les dénonciations des abus dans toutes ces formes, on le retrouve dans tous les styles de culture. Et il est vraiment temps de remettre ça au goût du jour. Enfin, c'est mon métier, donc je parle. Voilà. Mais moi, je suis en train de travailler sur un répertoire de chanteuses réalistes. Donc fin 19e jusqu'à Piaf, en fait.
Et se sentir complètement bien avec les moyens d'action qu'on choisira. Et donc en découle donc l'éthique qui est du coup un corpus de valeurs qui pour moi en tout cas c'est très personnel d'avoir son éthique et donc ça amène du coup à se questionner du qu'est-ce que mon éthique qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et donc
ce matin étant donné qu'on était sur le marché on n'avait pas 3 heures devant nous avec des groupes de personnes comme l'atelier se fait habituellement et donc là on a mis en place un petit atelier fresque quiz on l'appellera comme ça où on a juste mis quelques cartes du coup sur l'ensemble de la fresque et on invite les gens du coup à deviner les cartes manquantes et donc ça permet du coup de là aussi d'avoir des données des gens puisqu'ils ont des propositions auxquelles parfois on n'a pas pensé nous-mêmes à mettre dans la fresque. Donc là c'est très intéressant et on arrive à avoir du coup du monde qui est intéressé, qui est intrigué par ce terme de résistance et par l'idée de mettre en forme ça de façon systémique.
Voilà, donc la culture, oui, ah, pour moi c'est central.
La culture, elle a toujours été attaquée par tous les totalitarismes, hein. C'est un des premiers trucs attaqués parce que ça fait réfléchir, ça porte des idées, va-t-en savoir, qu'ils n'avaient peut-être jamais entendu et... Ils vont se trouver bien avec ça, et non, c'est hyper dangereux, quoi.
Mais c'est pour ça aussi que tous ces espaces d'échange qu'on crée, ils sont ultra importants d'un point de vue de la recherche pour alimenter nos réflexions. Et cette carte sur les arts, ça fait plusieurs fois qu'elle ressort, donc là, dans la prochaine mise à jour, on va sûrement l'ajouter. Et ça permet vraiment d'alimenter aussi tout un champ de recherche. Et il y a une ambition à terme avec cet outil, c'est de créer un centre de recherche sur les mouvements de résistance et sur la culture de résistance. Et un centre de formation un peu plus poussé que juste cet outil. Pour l'instant, notre projet se cristallise autour de l'outil pour aussi expérimenter, tester et créer des réseaux autour de ça, à partir desquels on pourra s'appuyer pour créer d'autres choses.
Bravo. Bravo.
Concernant la fresque, du coup, je trouve que c'est déjà un outil très complet et que le travail de recherche réalisé par Laurie a été hyper, hyper dense. Ça a permis d'aboutir du coup, à un outil qui est très concis et qui représente bien de façon systémique du coup, le décalage qu'il peut y avoir entre du coup, notre déconnexion vivant et la culture de résistance qu'on essaye d'amener via cet outil. Ce qui est hyper intéressant avec cet outil, c'est que ça permet aussi du coup, de récolter des données par le retour des gens sur cet outil et de façon à le faire évoluer au fur et à mesure des gens qu'on va rencontrer et d'avoir du coup, de plus en plus d'acuité sur certains points qui sont encore un peu flous et qui peuvent être encore sujet à discussion. Et donc ça s'ancre vraiment dans un processus de recherche-action et de... d'essayer de profiter du coup des expériences de résistance de plein de gens et de la façon dont est perçu le mot résistance pour aboutir à un outil qui parle à de plus en plus de monde.
Déjà, ouais, voilà. Au 1er mai, par exemple, ça fait très très officiel, machin, ceci, cela, mais tant pis. Au 1er mai, il y a tout un après-midi complet. On fait un banquet populaire, chacun amène à manger, machin. Donc la mairie sort les tables, les bancs, les machins, tout ça. Et après, on chante. Alors, moi, je fais partie d'une chorale de lutte. C'est l'émeute. À 10, c'est l'émeute. Et à Cré, c'est la bande. Et des fois, on chante ensemble. D'ailleurs, ils vont peut-être venir.
J'ai vu une personne qui a vu le mot résistance et qui a vu différentes cartes et qui a eu un pas de recul face à ce qui était écrit. Mais les personnes effectivement qu'on touche principalement, c'est des personnes qui sont déjà conscients, on va dire, de ces enjeux-là et qui voient, pour qui le mot résistance résonne, je pense, intérieurement. Et effectivement, je pense qu'on essaye de toucher des gens qui sont du coup déjà militants ou en tout cas qui ont déjà conscience de ces enjeux-là. Il y a un parti pris politique aussi dans la fresque qui est évident et qui du coup peut rebuter certaines personnes. À terme, moi, peut-être, je parle très personnellement, je pense que ce serait intéressant de le confronter aussi à des gens qui sont un peu plus éloignés et voir aussi comment résonnent en eux du coup les notions qui sont abordées dans la fresque.
Ouais, c'est bien.
Ouais, bah Laurie a fait un gros travail de recherche du coup sur ces différentes dimensions. Et là vous l'avez, parce que du coup on n'a pas enlevé les cartes, mais normalement c'est une fresque quiz, et on laisse juste les grandes cartes au début et c'est à vous de deviner. Et le fait que vous deviniez, ça nous sert aussi du coup d'éléments de recherche aussi, dans le sens où ce que les gens apportent, ça contribue au projet.
On a vraiment pour objectif de diffuser cet atelier dans une diversité de milieux, dans une diversité de luttes et de modes d'action. Justement pour à la fois créer ce lien, ne pas rester dans nos bulles, parce qu'on a conscience aussi qu'on est dans un certain milieu, mais on veut vraiment s'ouvrir à d'autres, et aussi pour récolter des expériences et des vécus, parce que dans cet atelier il y a aussi un objectif de recherche et d'utiliser en fait cet atelier pour récolter des données sur les différents milieux qu'on ira voir et pour augmenter notre connaissance sur les mouvements de résistance actuels. Et après, en termes de public, cet outil marche particulièrement et on s'adresse particulièrement à des personnes qui ont déjà un début d'engagement, que ce soit sur une lutte précise ou sur un mode d'action précis, pour justement pousser cet engagement vers l'ouverture, vers les autres types d'engagement. Après, on aimerait aussi tester l'outil auprès de personnes qui ne sont pas du tout engagées pour voir un petit peu ce que ça donnerait, mais pour l'instant, c'est plutôt la cible prioritaire. Et je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir en conscience cette diversité sur tous les aspects et d'avoir conscience qu'on est un petit peu dans une bulle et qu'il y a plein de façons d'ouvrir cette bulle. Et j'espère que ça se fera dans les années à venir avec de l'expérience et du temps et de l'énergie là-dessus.